Signe des temps, Marc Wetzmann.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Jean-Luc Godard a dit quelque part qu'une bonne fiction doit toujours être un documentaire et qu'un bon documentaire est toujours une fiction. Avant lui, des écrivains tels l'Américain Norman Mailer, le Yougoslave Danilo Kiss, les Argentins Borges ou Julio Cortázar ont écrit des romans qui ressemblaient à des documents historiques ou se sont emparés d'histoires vraies pour en faire le produit de leur imagination tout en respectant les faits. Ce va-et-vient entre fiction et réalité existait avant eux, mais quelque part vers le milieu du XXe siècle, les faits en question sont devenus si invraisemblables, les médias de masse si présents et l'expérience de l'individu si difficile à transmettre que les artistes ont éprouvé le besoin de redéfinir cette frontière entre fiction et fait. Aujourd'hui, les choses sont encore pires. Chaque jour ou presque nous apporte son lot de récits plus incroyables que la veille et la séparation entre ce qui est et ce qui n'est pas doit être redéfinie presque quotidiennement. Si une bonne fiction doit toujours être un documentaire, à quoi peut bien ressembler un documentaire quand le monde à documenter est sans repère, méconnaissable, car soumis à la violence constante du changement ? À quoi peuvent bien servir encore les artistes qui cherchent à raconter le temps quand le temps se rétrécit sous l'effet de la surmédiatisation et que le proche et le lointain, l'anachronique et l'ultramoderne, la catastrophe et l'épiphanie changent leur place constamment ? Donner forme à ce qui se passe, rendre compte du monde, peut-il être autre chose qu'une expérience ? De temps en temps, dans Signe des temps, on essaie de réfléchir à ce genre de questions en donnant la parole à un ou à une artiste en prise avec cette époque insaisissable qui ne ressemble à aucune autre. Et cette semaine, c'est vous, Yolande Zoberman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cinéaste, scénariste de fiction et de documentaire. Vous avez commencé par les documentaires, Classified People en 88 sur l'apartheid, Caste criminelle en 90, Moi, Yvan, toi, Abraham en 93, qui était votre premier long-métrage de fiction. Et puis, vous êtes revenu au documentaire en 2011 avec Would You Have Sex with an Arab? Et en ce moment avec M, qui est sorti il y a pas très longtemps, il y a 2 mois, et dont on va parler aujourd'hui. Avant de parler plus généralement du documentaire et du monde tel qu'il va. D'abord, M, comment est né ce film, qui est un film à la fois très prenant, qui se regarde comme une fiction, effectivement, qui est très intense, qui décrit un monde qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir au cinéma. Comment le film est né? Comment vous l'avez...
D'abord, je dois vous dire que cette phrase de Godard est pour moi une phrase à laquelle je pense très souvent.
Oui.
Et à laquelle j'adhère entièrement.
Une bonne fiction doit toujours être un documentaire et un documentaire doit toujours être une fiction.
Ouais. Alors, M est fait sur 2 temps. Il y a un temps très long. La première fois où j'ai vu Menachem,
qui est le personnage central du film.
Qui est M. C'était dans un film d'Amos Gitai, Kedma. Mm-hmm. Et je vois ce jeune garçon de 20 ans qui parle yiddish couramment et je comprends pas. Je comprends pas comment il parle comme ça. Au départ, je crois que c'est le fils d'Amos parce qu'il lui ressemble. Et en fait, pas du tout. Et je comprends quand je vois un autre film qui s'appelle Pork and Milk, de Valérie Mreyen, mm-hmm. qui est un film sur les jeunes garçons qui ont quitté l'orthodoxie, l'ultra-orthodoxie juive. D'abord, je comprends que Menachem fait partie des Netori Karta et que c'est pour ça qu'il parle yiddish, parce que les ultra-orthodoxes ne parlent pas hébreu, qui est la langue sacrée, et donc ils parlent le yiddish comme langue du quotidien.
Alors, les Netori Karta, c'est le groupe des ultra-orthodoxes des ultra-orthodoxes, en quelque sorte.
C'est vraiment les plus noirs
des noirs. Les plus noirs des noirs, et voilà. ils sont anti-sionistes pour la plupart. Hein. Ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, considèrent que l'État d'Israël est une hérésie, et donc ils vivent en Israël, mais ils vivent en quelque sorte hors sol, dans des communautés extrêmement fermées.
De toute façon, on pourrait dire ça d'à peu près tous les gens qu'on a rencontrés à Bnei Brak. C'est-à-dire que c'est une ville où vous avez l'impression qu'ils sont en communication directe avec le ciel, avec Dieu. Quoi.
Oui.
Ils sont très peu au courant des problèmes du pays. Et donc, je découvre Menachem, et je découvre effectivement qu'il fait partie des Netori Karta. Pour moi, Netori Karta, c'est à peu près le diable. Et pourtant, il montre à la caméra une image de ses frères et lui, un jour de fête. Et je vois des sourires incroyables, et ces sourires n'ont rien à voir avec le diable. Mm-hmm. Et donc, je suis intriguée. Mm-hmm. Et je me dis qu'un jour, je rencontrerai pour lui proposer un rôle, un petit rôle dans un film. Et des années plus tard, c'est ce que je fais. Et juste avant de le rencontrer, je tape son nom sur Internet et je vois un blog qui apparaît sur des enfants qui ont été violés en milieu ultra-orthodoxe, juif. Et donc, je comprends d'un côté pourquoi il m'a toujours ému à ce point sans que je sache pourquoi. Mmh. Et je vois une séquence qu'il a filmée avec une caméra cachée où il poursuit un de ses violeurs et le violeur avoue tout devant sa caméra mmh. cachée. Et je pense qu'il fait à ce moment-là un film. Et donc, quand je le rencontre, je lui dis « Écoute, j'ai vu ton histoire. » Et sache que si tu fais un film, peut-être je peux t'aider à trouver de l'argent en France. Et il me dit, mais pas du tout, j'ai fait ça il y a 10 ans et j'ai reçu des terribles menaces et j'ai tout arrêté, j'ai eu peur, j'ai tout arrêté. Et moi, le lendemain, je rentrais à Paris et à partir de là, il m'a appelé sans cesse en me disant, faisons-le ce film, faisons-le. Et d'une certaine manière, j'ai pas pu ne pas le faire. Mmh. C'est-à-dire que c'est un peu dans ces termes que ça s'est posé pour moi. C'était pour moi impossible de ne pas faire ce film.
Mmh. Et vous avez dit faisons-le, mais vous avez dit quelque part qu'au moment de tourner, la première scène du film, en fait, qui est chronologiquement la première que vous ayez tournée aussi, où il balance toute son histoire brutalement devant la caméra, torse nu sur la plage la nuit, il ne voulait pas le faire.
Oui, d'abord, ce n'était pas tout à fait la première nuit de tournage. Il y a même eu des choses entre-temps, parce que comme je suis une femme, je pensais que je ne pouvais pas faire le film moi. Mm-hmm. Donc, je pensais faire le film un peu à l'aïeul, entre guillemets, c'est-à-dire en restant de loin et en guidant un peu un opérateur qui serait allé à ma place filmer.
Là où vous ne pouviez pas entrer.
Ouais. Mm. Et en fait, j'ai dîné la veille du jour où je suis partie avec une caméra avec l'éditrice du Seuil qui a sorti un livre qui s'appelle L'Histoire d'Em. Et elle m'a dit, mais toi, tu peux tourner où tu veux. Et tout d'un coup, je me suis dit, elle a raison, j'ai toujours tourné où je voulais. Et donc, j'ai essayé et je me suis rendu compte que je pouvais tourner. Mmh. Et donc ça, c'était le début. Et la première scène du film, c'est pas exactement la première scène qu'on a tournée. On avait déjà tourné quelques jours et M disait qu'il était épuisé. On tournait que de nuit. Et moi, je sentais qu'il fallait qu'on tourne. Et donc, je lui ai dit, écoute, viens sur la plage. On tourne sur la plage à Tel Aviv. Et il est arrivé avec un t-shirt horrible. Et donc, je lui ai dit, enlève ton t-shirt. Et du coup, comme il était fâché contre moi, il m'a balancé effectivement, et la berceuse de mon enfance, Orphan Baby Chuck, et son histoire. Et ce que je trouve beaucoup plus fort, parce que je pense que si on avait tourné cette scène de connivence, il y aurait quelque chose pour moi de gênant. Mmh. Et je trouve que quelquefois, les énergies contraires sont intéressantes aussi. Et voilà.
C'est dans cette scène, comme d'ailleurs dans tout le film, il y a le sourire de Menachem et le sourire des autres personnages aussi par la suite, qui est à mi-chemin entre l'agression et la douceur. Ouais. Ça caractérise tout le film, c'est très impressionnant d'ailleurs.
Ouais.
Dans la manière dont il vous raconte son histoire, qui est une histoire de violence. En réalité, il s'est fait violer par 3 personnes successives, dont au moins une de manière extrêmement violente. On va en parler tout à l'heure. Mais il le raconte d'une manière à la fois spontanément poétique et brute, quoi. Brutale. Mon corps et mon âme étaient à celui qui me frappait. Il n'était donc plus à Dieu, mais à celui qui me frappait. Et la liturgie juive, quand je la chante, puisqu'il est cantor aussi, il est chanteur, j'y mets toute la douleur accumulée depuis mon enfance. Et en même temps, c'est une chanson d'élévation quand il la chante. C'est ce
mélange. Et de survie.
Et de survie, oui.
C'est le chant lui a permis de survivre, en fait, à toute cette histoire. Mmh. C'est vrai qu'il y a toujours ce sourire. Il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que il y avait un pacte entre nous dès le départ. C'est-à-dire, on devait pouvoir parler de tout, du plaisir, on devait pouvoir parler de choses dont normalement on parle pas. Moi, depuis mon premier film, il y a une chose qui m'est extrêmement importante. J'avais vu Memory of Justice, le film de Marcel Ufuls, qui est un film où il revient 20 ans plus tard sur le procès Nuremberg, et où il va chercher les différents acteurs du procès Nuremberg et les fait témoigner. Et dans ce film, on se rend compte de plusieurs choses. On se rend compte que le jeune médecin un gynécologue qui fait un dossier d'accusation contre un gynécologue qui a fait des expériences sur les femmes dans les camps de concentration, n'a jamais vraiment pu travailler, alors que le gynécologue qui a fait les expériences sur les femmes a une clientèle florissante. Donc on se rend compte de ce qui se passe 20 ans plus tard. Et puis, tout d'un coup, il y a Edgar Faure, qui dit, voilà, moi j'étais jeune procureur, je suis partie pour le général de Gaulle, et j'arrive, et je vois une première victime qui témoigne d'Auschwitz, et c'était terrible, c'était bouleversant, et puis il y en a une deuxième, c'était vraiment trop triste, c'était terrible, une troisième, c'était émouvant, mais bon, ça commençait à se répéter, une quatrième, ça commençait à devenir ennuyeux, et tout d'un coup, Göring se lève, et là, toute la salle est électrisée. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est encore jusqu'au bout, les nazis, les stars, quoi. Et je me suis juré que jamais je filmerais des gens qui ont vécu quelque chose de difficile comme des victimes.
Oui.
Et ça, c'est une chose extrêmement importante. C'est-à-dire de filmer les gens que je filme comme des gens qui sont les héros de leur propre vie.
Oui, il y a une énergie dans le film qui emporte tout. C'est une énergie de survie, mais aucun ne se positionne comme victime dans le film. Ils ont une très grande liberté.
Ouais.
Ça leur donne une liberté, je veux dire, et à nous aussi spectateurs. C'est-à-dire que c'est évidemment jamais misérabiliste, mais c'est plus que ça. On est emporté par l'énergie des protagonistes.
Mais ils devenaient de plus en plus radieux.
Oui.
Et je sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais quelquefois, même dans des situations difficiles, même dans des situations de deuil, lorsqu'on est au centre de la chose et que on donne tout son temps à ce qui est en train de se passer, il y a quelque chose de joyeux qui émerge, même si la situation est très difficile. Tout d'un coup, de chercher ensemble, et puis il faut se dire que chacun était de son côté, et que tout d'un coup, ils partageaient. Tout d'un coup, il y a entre eux un chemin commun qui se dessine, parce que le film est fait de Menachem et de certains de ses amis, mais il est fait de rencontres aussi.
Oui. Oui. Alors on va en parler, mais il y a la nuit qui est permanente.
Ouais.
Oui, le film est entièrement tourné de nuit.
Ouais.
C'est en partie parce que les ultra-orthodoxes vivent beaucoup la nuit. Enfin, tout le monde en Israël, mais en particulier eux. C'est-à-dire qu'on les voit se promener avec leur famille, même les petits-enfants, à 2h du matin, 3h du matin.
Sans problème.
Sans problème, dans un
on
univers.
On ne sait pas d'où ils sortent.
On ne sait pas. Dans un univers où il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a rien. Il y a juste eux. Et c'est dans cette nuit qu'on pénètre dans un monde vraiment assez, assez onirique, où il se passe plein de choses. Et effectivement, c'est fait de rencontres. On suit Menachem, ils parlent tous yiddish. Et c'était des rencontres qui pourraient sortir d'un roman de Singer, quelquefois.
Ouais.
Il y a donc une rencontre, au moins, avec un de ceux qui l'ont violé, qui ne sort pas, mais qui est derrière sa fenêtre. Et que
c'est la maison qui parle.
C'est la maison qui parle. Et Menachem l'apostrophe et le dialogue s'engage. C'est assez incroyable ce que vous avez réussi à filmer à ce moment-là, où le type répond depuis derrière la fenêtre. Non, mais je vais pas sortir, ça va pas la tête. et il s'engueule comme ça. Mais dans ce parcours que vous décrivez, le film commence avec le retour de Menachem à Bnei Brak, dans le quartier de Bnei Brak. Il vient avec une idée de vengeance en tête. Et vous le suivez avec un émerveillement qui va croissant et qui fait place aussi à la surprise, parce qu'il se passe plein de choses au fur et à mesure. C'est ce double trajet d'une recherche de vengeance d'une part et d'émerveillement de la caméra qui à un moment donné vont se rencontrer.
Absolument. On n'est pas rentré du même pied, mais on s'est harmonisé.
Mmh.
Et c'est vrai que je me disais sans cesse, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, quoi? Je trouvais extraordinaire qu'on m'ouvre les portes comme on me les a ouvertes. Je trouvais extraordinaire, surtout que je me cachais pas du tout. C'est-à-dire, j'étais comme vous me voyez aujourd'hui, avec les cheveux longs, en jean. Je me suis pas déguisée en religieuse.
Mmh.
Un jour, j'ai trouvé le frère de mon grand-père. Je savais pas qu'il existait. Et c'était un vieil homme avec papillotes. Et donc, j'ai absolument voulu aller le voir. Et quand j'étais le voir, j'étais en jean et mon cousin m'a accompagné. Et il m'a dit, mais tu peux pas rentrer comme ça, ils vont te cracher dessus. J'ai appelé ma mère et elle m'a dit, soit ils t'acceptent comme tu es, soit ils t'acceptent pas. Et cette chose, elle est restée toujours avec moi. C'est-à-dire, soit ils m'acceptaient comme j'étais, soit ils m'acceptaient pas. Et ils m'acceptaient. Ils m'acceptaient, je pense, parce que Menachem d'abord, qui arrivait, qui se mettait à chanter dans un monde, comme vous dites, où il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de télé. Donc, je veux dire, quand il arrivait, il se mettait à chanter, c'est comme si Mick Jagger était arrivé au village, en fait. Hein, tout le monde était autour. L'autre chose, c'est que je parle yiddish.
Oui.
Le film est en yiddish, moi je ne parle pas hébreu en plus. Mm-hmm. Donc tout le film, et le yiddish a été réellement une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. Je crois que je n'aurais jamais fait ce film si ça n'avait pas été en yiddish. Ça aurait été trop dur pour moi. C'est-à-dire que le tournage était joyeux, et quand je rentrais à Paris, je pleurais. Mm-hmm. Mais le tournage était effectivement assez émerveillé, et moi je souriais tout le temps pendant que j'étais en train de filmer, et je pense que les gens ont fait confiance à ce sourire. En plus, Menachem qui exagère toujours, c'est-à-dire moi je suis une descendante d'un disciple du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, c'est celui qui a inventé le chassidisme ce mouvement en fait révolutionnaire qui a donné l'étude à tous les juifs et pas uniquement à une élite. Mm-hmm. Et Menachem disait que j'étais une descendante du Baal Shem Tov tout court, quoi.
Oui, d'accord.
Et donc les gens étaient, ils ne savaient pas trop comment me regarder. Mais voilà, donc l'un dans l'autre, entre émerveillement et moi je savais que je venais avec un couteau, justement, avec quelque chose qui était une...
C'est ce que vous dites à la
un
fin.
Un crime grave, quoi. Ouais. Je veux dire, j'étais en train de regarder un phénomène très, très grave. Et du coup, ce phénomène absorbait toute une partie de quelque chose qui aurait pu être contradictoire, allergique même au départ. Hein. C'est-à-dire, on est tous passés, toute l'équipe, d'allergie à amour. Et je pense qu'on se sent assez proche de tous ces gens qu'on voit à l'écran. Et on les connaît, voilà, ils sont individués. Et ça, pour moi, ça a été une immense chance de rentrer dans ce monde.
Alors, une des choses incroyables qui se passe dans le film, c'est que à mesure que Menachem raconte son histoire, il parle. Vous l'interviewez la plupart du temps dehors, dans la rue. Quelquefois en voiture, mais souvent sur le trottoir. Et au fur et à mesure qu'il vous raconte son histoire, des gens viennent le voir, des hommes le plus souvent, des religieux, des orthodoxes, comme il a été, et ils engagent la conversation, et très vite, on se rend compte qu'eux aussi ont subi des viols, et en nombre incalculable. Au bout d'un moment, au départ, on croit à une coïncidence, et puis finalement, il y en a d'autres, et puis au bout d'un moment, on se dit, mais lequel, en fait, n'a pas été violé dans ce milieu? C'est invraisemblable. C'est extrêmement courant.
Alors, au début, moi, je disais toujours, il faut faire attention, parce que tout le monde d'un film, c'est pas tout le monde.
Oui.
Et nous, on est quand même arrivés dans ce film et dans Bnei Brak avec le viol comme événement, en fait. Mais je dois dire, j'ai montré le film il y a très peu de temps, il y a 15 jours, en Israël, à Menachem, qui est venu avec des ultra-orthodoxes. Et à mon grand étonnement et même à ma sidération, je dois dire, ils sont sortis, mais absolument enchantés. C'est-à-dire, ils disaient qu'ils sentaient qu'il n'y avait rien qui les offensait dans ce film. Mmh. Et qu'en même temps, le problème dont ça parlait, c'était un problème avec lequel il fallait vraiment dealer, quoi. Il fallait arrêter avec ça. Et moi, qui minimise souvent... Parce que c'est vrai que j'ai fait un film dans un monde et pas sur un monde. C'est-à-dire que j'ai eu la chance qu'on me prenne la main et qu'on m'entraîne dans ce monde. Mais j'ai pas, c'est absolument pas un film anthropologique, c'est absolument pas une enquête d'aucun ordre d'une certaine manière. Donc j'ai toujours minimisé. En fait, quand j'étais là-bas, ils me disaient « Mais non, tu te rends pas compte. Tu te rends pas compte à quel point ça existe, quoi. » Et en fait... En amenant le film un peu partout dans le monde, j'ai réalisé que, ça je le savais, que ce problème existait absolument partout, dans toutes les religions, dans tous les pays, mais qu'on existait tous en plus sur cette cartographie du viol. Parce que qui, comme enfant, a eu un premier contact avec la sexualité qui a été beau? Il y en a eu, j'en suis sûre, mais c'est très très rare. La plupart, c'est quand même quelque chose de brutal, que ce soit un mot, que ce soit un geste, que ce soit plus... Et donc il y a quelque chose qui nous regarde tous, et ça nous regarde tous aussi parce que le fait de venir d'un monde qui a été si souvent violé fait que on a un rapport à la vie qui est très déterminé par ça. On a un rapport à la cruauté, un rapport à l'obéissance.
C'est ça, c'était la question de fond, une des questions de fond que pose le film, c'est le rapport à l'obéissance et effectivement à la cruauté. C'est pas seulement le viol, c'est à travers le viol, parce que c'est des personnes d'autorité qui violent Menachem à chaque fois, c'est un rabbin. Donc il y a tout un rapport à la pureté aussi qui est très important. Donc tout ça, et à l'impureté. tout ça, parce que les victimes ce sont les victimes qui se sentent impures et coupables au début du film. À tel point qu'à un moment donné, Menachem raconte qu'il est allé, quand il s'est fait chasser de sa famille, il est allé dormir dans un cimetière pendant un mois. Le cimetière a une très grande importance dans le film, d'ailleurs. C'est assez curieux.
Parce que c'est l'endroit où il se réfugie.
Oui,
c'est l'endroit frontière entre les religieux et les non-religieux.
Oui.
Géographiquement. Et ensuite, ils savent pas où aller. Donc ils vont au cimetière parce que c'est un endroit où ils peuvent se coucher par terre. Mais c'est assez étonnant. Du coup, j'avais vraiment l'impression de faire un film de vampire, surtout que le film est entièrement de nuit, qu'effectivement il y avait une espèce de dimension de conte dans le film.
Et c'est aussi là qu'un des viols se produit. Enfin, un des rabbins, Menachem raconte qu'un des rabbins emmenait les enfants qu'il violait dans le cimetière pour les violer sur la tombe d'un rabbin. Ce qui est
dingue. Oui, parce que il y a pas d'endroit d'intimité dans Bnei Brak. À un moment, on a voulu prendre un verre quelque part. Il y avait pas d'autre endroit que la station service. C'est la station service, d'ailleurs, où j'ai demandé aux deux frères de m'expliquer la différence entre les dynasties. Il y a cette scène assez drôle où ils me montrent sur les hommes qui mettent de l'essence dans la voiture quelle dynastie et quoi et quels sont les chapeaux et quelle forme de papillote et tout ça.
Quelle dynastie hassidique.
Hassidique.
La manière dont ils mettent leurs chapeaux,
leurs papillotes, leurs cafetans et ainsi de suite. Mais parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'intimité. C'est la ville la plus misérable d'Israël, Bnei Brak. Il y a quand même quelques maisons assez riches, mais c'est rare. La plupart des gens vivent très pauvrement. Les familles sont extrêmement nombreuses, entre 12 et 14 enfants quelquefois. Il y a des enfants qui dorment dans les baignoires. Et c'est peut-être ça, d'ailleurs, les familles qui se promènent à 3 heures du matin, c'est peut-être un tour de rôle pour aller dormir, je ne sais pas. Et donc il y a quelque chose comme ça, et en même temps quelque chose de très très joyeux, c'est pas du tout sinistre. C'est très organique, c'est très sexué, ils chantent tout le temps. Mmh. Et il y a cette chose qui existe depuis je ne sais quand, depuis certainement des siècles, et qui se multiplie avec le temps, parce que le plus grand crime autour du viol, c'est le silence. Le plus grand crime autour du viol, c'est faire sentir à la personne qui a été violée qu'elle doit avoir honte de quelque chose.
Oui, c'est ça.
Et c'est vrai de partout, en fait. D'abord, le viol en tant que tel est considéré comme un crime que depuis peu dans le monde. En France, c'est depuis 1976 que c'est un crime. Avant ça, c'était un délit. Et le viol a souvent été considéré par les mères comme la preuve de virilité de leur fils, par exemple. Donc, il y a tout... En fait, on nous a jamais rien dit de vrai par rapport au viol. Et par rapport à ce que ça a été... Dans l'histoire, en fait.
Et c'est la personne violée qui est considérée comme impure. Dans le film, c'est flagrant. Mais c'est pas seulement dans le film, en réalité. C'est effectivement partout. C'est la personne violée qui est impure, qu'on ne peut plus fréquenter.
Alors, il y a plein d'aspects de ça. Mais il y avait une discussion entre M et Shmili. Shmili, c'est le jeune garçon qu'on rencontre au cimetière. Et qui est là au départ, on croit qu'il va nous dénoncer, on a un peu peur. Et en fait, il s'approche, il nous entend parler yiddish, et voilà, et il rentre dans le jeu, et il accepte d'être filmé, et il nous dit au bout de 5 minutes ou 10 minutes qu'il a été lui-même violé par ses frères et beaux-frères, et qu'il est là parce qu'il doit se marier, et qu'il a très peur parce qu'il ne sait pas s'il peut se marier après tout ça, et qu'il avait oublié son histoire, et que son histoire est remontée. Et on suit Shmili dans le film, c'est le présent du film, on le suit à son mariage, on le suit après son divorce. Et en fait, à un moment, Menachem lui explique que son rabbin, à lui, lui a demandé de demander pardon à Dieu en même temps que le violeur. Et ça le révolte, Menachem. Pourquoi devrait-il demander pardon à Dieu, lui qui a été violé? Et Shmili lui dit, c'est pas parce qu'on t'a mis de force ta main dans le goudron qu'elle est pas sale. Il faut quand même la nettoyer. Il faut quand même se purifier. Et donc, ils avaient toutes ces discussions. Et j'imagine, par exemple, pour quelqu'un comme Shmili, de tout d'un coup, découvrir quelqu'un une nuit dans un cimetière, et d'être avec lui après, et de pouvoir partager son histoire, de ne plus être seul dans son histoire. C'était énorme, et sans parler de la scène où il y a cet autre homme qu'on rencontre et qui lui fait un cours d'éducation sexuelle.
Oui, ça c'est absolument... Enfin, on va y revenir à ça, parce que c'est... Mais ces discussions sont possibles aussi parce que la communauté de Bnei Brak est hors loi. Il y a la police, il n'est quasiment pas présente.
Donc, il n'est pas du tout présent.
Pas du tout. Donc, il y a une espèce de milice privée qui circule, mais qui concentre l'information. C'est-à-dire, tout le monde sait ce qui se passe sur tout le monde, et puis qui intervient très discrètement, en réalité, parfois violemment, mais très discrètement, ce qui fait qu'on sait les choses, mais que ça n'apparaît pas vraiment sur la place publique. Il n'y a pas vraiment de place publique en tant que telle. Et donc, l'information ne circule jamais que sous forme de commérage ou de lachonara, comme on dit.
Ouais.
Mais il n'y a pas de, il y a, donc les soudaines, et du coup, cette absence de loi, cette absence d'autorité, qui permet tous les abus, permet aussi, assez bizarrement, sous l'œil de votre caméra, permet à la parole de circuler très librement. C'est paradoxal. Il y a des dialogues qui se nouent, qui ne devraient pas pouvoir se nouer, en théorie, normalement.
Les gens sont sidérés, je dois dire. Mais je crois que c'est aussi le fait qu'il n'y ait pas de télé, pas de radio, pas d'Internet.
Oui.
Et que les gens sont pas formatés, ils savent pas ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Et donc, soit ils sont fermés, soit ils sont ouverts.
Voilà, ça, on va revenir là-dessus parce que c'est très important.
France Culture, Signe des Temps, Marc Wetzmann.
I've got chills, they're multiplying.
Oui, Yolande Zauberman. On parle de M, dont le titre d'ailleurs fait référence en soi à la fiction, puisque le nom complet de Menachem dans le film, c'est Menachem Lang. Évidemment, M, c'est M le maudit de Fritz Lang.
Ouais.
Mais inversé, c'est-à-dire que c'est plus le meurtrier ici, c'est la victime qui se libère, en fait.
Ouais.
On parlait pendant la musique, on parlait de ce que ça représente de miraculeux pour vous d'avoir pu pénétrer dans ce monde, qui, vous le dites au début, qui est le monde de vos ancêtres. Vous y pénétrez par une blessure, qui est celle de Menachem, mais vous y pénétrez complètement. C'est-à-dire que c'est aussi un voyage dans le temps. Vous allez dans des endroits qui sont décrits dans les livres de Singer et d'autres, qui sont des endroits de l'imaginaire, mais qu'on n'imagine pas exister vraiment, et vous réussissez à les filmer. Vous filmez les cérémonies, les danses dans les synagogues, et c'est ce qui donne une des forces au film, c'est cette espèce de plongée dans l'archaïsme qui soulève en même temps des questions totalement immédiates, totalement contemporaines.
Ouais, j'ai du mal à l'expliquer, c'est-à-dire cette façon de nous laisser passer, et en même temps, ce plaisir de filmer. Ces actes, cette façon, par exemple, d'embrasser les Torahs, hein, quand il y a une scène où on les voit, et c'est profondément amoureux, il y a quelque chose de profondément organique. Et en même temps, le film, je crois, et c'est tout le trajet du film, y compris pour Menachem, de dissocier cette beauté du crime. C'est-à-dire, il y a le crime, et il y a la reconnaissance de cette force, de cette transe. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que cette transe, hein, la transe des danses, elle est partagée aussi bien par les laïcs que par les ultra-orthodoxes. Les laïcs des kibbutz dansent les mêmes danses que les ultra-orthodoxes. Et quelqu'un me disait l'autre jour, mais au fond, c'est pour ça qu'Israël, c'est le pays de la transe. Mm-hmm. C'est le pays de la musique électro, ouais, c'est le pays des DJ. C'est la translation actuelle, en fait, de ce besoin comme ça de communiquer par la danse, par le chant. Et le film est fait effectivement d'archaïsme et d'immédiateté. C'est-à-dire, par exemple, je connaissais Menachem depuis 15 ans à travers les films, mais le jour où je l'ai rencontré, la fois d'après, on tournait. C'est-à-dire qu'il n'y a eu quasiment aucune préparation. Donc depuis le début, il y a eu ce mélange entre un temps très long et un temps immédiat, une plongée immédiate constante.
Vous dites aussi que vous travaillez sans plan de travail. Vous êtes laissé emporter par le...
Non. Je ne me suis pas laissé emporter. Oui. C'est-à-dire, d'un côté, oui, mais moi, je dis toujours que le documentaire, enfin, les films documentaires, c'est une danse, et d'ailleurs, je pense tous les films, mais là, c'est clair, hein, c'est une danse entre une intuition et ce qu'on ne sait pas. Entre quelque chose qu'on sait et quelque chose qu'on ne sait pas. Et en fait, moi, j'aime pas dire ce que j'ai en tête parce que j'ai l'impression qu'en le déflorant, je le tue. Mmh. Et donc c'est des choses que je désire très fort dans mon cœur ou dans ma tête et que je tente de mettre en place quelquefois avec la complicité de quelqu'un par rapport à un bout de choses. Par exemple, je peux poser la question, il y a une scène au début du film avec une trans
une transsexuelle arabe
qui vit à Tel Aviv et qui questionne Menachem sur sa sexualité. Donc ça, je l'ai mis en place, en fait. Hein. Mm-hmm. Je l'ai mis en place par rapport à l'attirance que Menachem a vis-à-vis des trans.
Des trans, oui.
Mais voilà, j'ai demandé à Taline, cette trans absolument extraordinaire, de questionner Menachem sur sa sexualité. Et pour moi, c'est très fort parce que ça met d'une part le rêve dès le départ dans le film. C'est-à-dire que Taline, c'est quelqu'un qui s'est réinventé. Mmh. Hein, c'était un jeune garçon arabe, très très mal dans sa peau, se sentant pas du tout garçon, très malheureux, et qui tout d'un coup découvre à Tel Aviv la possibilité de devenir femme et de devenir elle-même, en fait, d'une certaine manière, et qui accomplit ça très bien. Et je ris parce que Taline a un agent, et cet agent est aussi trans. Alors lui, c'est israélien, juif, il s'est fait opérer à 19 ans, et donc elle est devenue une trans, et elle s'est mariée avec un rabbin, un rabbin veuf qui avait des enfants,
ah bon,
à Bnebrak. Et donc elle lui a pas dit que c'était une transe. Et puis il voulait pas la laisser divorcer. Elle, au bout de 3 ans, elle en a eu marre. En fait, ils sont connus sur Facebook. Ils ont communiqué.
Alors Rabin ne savait pas.
Ne savait pas du tout.
D'accord. D'accord.
Et donc comme il voulait pas la laisser divorcer, elle lui a laissé ses papiers, ses papiers de transformation sur le bureau. Il a tout de suite divorcé. Et donc ça, c'était assez drôle. Et donc Taline a été recueillie quasiment par cette transe plus âgée. Qui en a fait sa fille adoptive, qu'il a.
Et dont elle est devenue l'agent.
Et dont elle est devenue l'agent et qu'il a énormément protégé. Et voilà.
Mais cet Israël-là que vous montrez au début du film et qui fait écho d'une certaine. Enfin, à travers Taline, c'est aussi le Tel Aviv nocturne, noctambule. De Would You Have Sex, qui fait irruption au début de ce film-là.
Ouais.
Parce que Would You Have Sex, c'est le film précédent qui se passe entièrement dans les milieux nocturnes de Tel Aviv où il se passe plein de choses. Et Taline est une espèce de transvasement, si je puis dire, ouais, du film précédent, ouais, à celui-ci. Ça fait le lien, mais c'est aussi cette transe dont vous parlez, cette transe d'Israël dont vous parlez. C'est effectivement, il y a un lien qui va jusqu'à Bnei Brak, où tout le monde, la nuit, danse et chante, que ce soit dans les bars lesbiens ou homosexuels ou straight de Tel Aviv, que dans les synagogues de Bnei Brak. Il y a cette espèce on peut pas vraiment appeler ça mysticisme, mais il y a cette espèce
de transe.
De transe, oui. Il n'y a pas d'autre
mot. De transe. Et il y a la sensualité de la nuit, de ces nuits très chaudes.
Ouais.
Et il y a, c'est un monde rock'n'roll, le monde des Hassidim de Bnei Brak. C'est un monde qui ne dort jamais, comme vous avez dit au début. C'est un monde qui étudie jour et nuit, donc il n'y a pas de frontières. Et il y a quand même moins de monde la nuit. C'est pour ça aussi que la nuit nous protégeait. Ensuite, moi j'aime la nuit, j'aime les nuits documentaires. Les nuits documentaires, c'est les plus belles nuits du cinéma. Dans le cinéma, on met plein de projecteurs, on essaie de retrouver quelque chose de naturel. Les nuits de documentaires, elles sont brutes, elles sont fortes, elles sont belles, elles sont là. Voilà, c'est ouais. Et quelqu'un me disait que plus j'aimais les gens, plus je les mettais dans la nuit. C'est peut-être possible. Mais c'est vrai qu'il y a une façon de se protéger. Il y a une façon aussi de rendre les gens beaux dans la nuit. Et puis j'aime beaucoup cette idée de chercher la lumière dans la nuit. Moi, quand j'étais petite, il y avait un homme que je voyais, qui m'impressionnait beaucoup. Je voyais toujours une espèce de nuage d'or au-dessus de sa tête. Et on m'a raconté, il y a, je sais pas, 7 ans peut-être, que cet homme, il cherchait l'or dans la poussière, que les bijoutiers lui donnaient... leur poussière, lui vendaient leur poussière, et lui, il avait une technique pour extraire la poussière d'or qui était restée par terre. Et voilà, et donc j'aime beaucoup cette image qui était très forte pour moi quand j'étais enfant, et c'est quelque chose que j'aime bien faire, en fait, chercher la lumière là où on pense qu'il n'y a que de la noirceur, en fait.
Alors, l'or que vous trouvez, c'est la parole. Alors, je voudrais qu'on vienne à cette idée à Bnei Brak, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, et que c'est peut-être une des choses qui permet que les gens soit se taisent, soit vous parlent, mais quand ils se mettent à parler, ils y vont absolument franchement. Il n'y a pas de
faux semblant.
Il n'y a pas de faux semblant. Il n'y a aucun politiquement correct. Et il n'y a bizarrement pas de. Il n'y a rien qui reste caché quand ils se mettent à parler. Ils parlent vraiment, même quand ils devraient normalement être prudes. Ils ne le sont pas. C'est très étrange. Il parle de choses, mais il y a ce religieux, je ne sais plus lequel c'est, qui pense à un moment donné dans le film, il dit que les femmes n'ont pas de sexe.
C'est le jeune garçon. Qui ne s'est pas encore marié, qui reçoit un cours d'éducation sexuelle. Alors, il faudrait dérouler la chose depuis le début. D'abord, le sexe. Ils adorent parler de sexe. Mais ça, franchement...
Ça. Ils en parlent constamment.
Les sociétés où c'est interdit, les gens adorent. Je ne sais pas si vous avez vu un film qui s'appelle Téhéran Tabou, qui est un très beau film d'animation, en fait, où ça parle de sexe, mais du début à la fin, quoi. Et là, comme c'est interdit, qu'il n'y a personne avec qui parler de sexe, quand enfin ils trouvent quelqu'un avec qui c'est possible, ils ne s'arrêtent plus, quoi. Ça, c'est une chose. Par ailleurs, c'est vrai qu'ils ne sont pas formatés. En tout cas, ils ne sont pas formatés comme nous, on peut l'être. Et soit ils parlent, soit ils parlent pas. Il y a pas d'entre deux. Et s'ils parlent, ils ont pas peur.
Ils n'ont pas peur
et ils cherchent pas. Mais ça, j'avais déjà remarqué ça dans Would You Have Sex With Naam. Ils cherchent pas à être autre chose que ce qu'ils sont. Ils cherchent pas à être plus cool qu'ils ne sont. Ils cherchent pas, ils disent les choses. Ils se dévoilent, en fait. Soit ils restent cachés, soit ils se dévoilent.
Voilà. Il y a cette idée qu'ils peuvent raconter. Ils racontent vraiment leurs expériences. Ils y vont franchement.
Et il y a même quelqu'un qu'on rencontre. Alors ça, c'est vraiment la rencontre la plus improbable qu'on ait faite, parce que c'est sur le port de Jaffa, qui est la partie arabe de Tel Aviv, la ville arabe, en fait, collée à Tel Aviv. Et on est sur le port. Et tout d'un coup, il y a 2 hommes qui arrivent, dont un avec des papillotes. Et Menachem lui parle en yiddish, et l'homme s'approche, et l'homme raconte très vite que non seulement il a été violé, mais qu'il a violé lui-même.
Voilà.
Et devant Menachem et ses 2 copains qui sont absolument estomaqués, et l'homme raconte comment il a été s'excuser auprès de la famille de l'enfant à qui il a fait ça, pour que l'enfant ne connaisse pas ce phénomène, cette obsession qu'ils ont tous, et ça c'est vraiment ce que j'ai découvert là-bas, cette obsession qu'ils ont tous, qu'ils appellent le galgal.
Le cercle vicieux, devenir violeur à son tour.
Voilà, devenir un violeur quand on est violé. Et c'est, je crois, la raison fondamentale pour laquelle tous ont accepté de parler. C'est leur obsession et de ne pas devenir un violeur. Et cet homme a été considéré quasiment comme un héros par les autres dans le film. Ça aussi, c'était très étonnant. C'est-à-dire qu'il disait, mais qui a ce courage? Qui a ce courage de se dévoiler, d'aller s'excuser? Et il est devenu une espèce de référent pour eux. Et c'est lui qui donne un cours d'éducation sexuelle au jeune Shmili.
Voilà. Mais est-ce que vous dites à un moment donné que, je ne sais plus où, que c'est peut-être la Bible qui permet cette brutalité dans l'expression de la parole et cette franchise dans l'expression de la parole, parce que la Bible est un livre brutal, violent, et il y a cette idée qu'on dit les choses telles qu'elles sont, quoi.
Ben, moi, c'est un truc que j'y pense depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est vrai que la Bible, c'est un peu comme Shakespeare, quoi. C'est plein de sang, il y a des batailles, il y a des guerres, on raconte les histoires sexuelles, on raconte Et donc voilà, donc ils sont habitués, ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise que tout va aller bien, les Haridim, ça veut dire les craignants Dieu, mm-hmm. les tremblants devant Dieu. Ils s'attendent pas à ce qu'on leur dise, ah, mais non, tout va aller bien, ça va aller, tout ça, ils savent que le monde est dur. Et donc, quand ils découvrent une histoire comme celle de Menachem, soit ils s'y associent parce qu'ils ont eu la même, soit ils la reconnaissent parce qu'il n'y a pas de faux semblants.
Mais une des choses fascinantes pour nous, qui sommes formatés par les médias et par les moyens de communication modernes, et par une certaine forme de civilisation, enfin de où on ne dit pas tellement les choses, c'est que justement, ce qu'il y a de fascinant dans ce film, c'est la manière dont les gens passent d'une sorte de carcan religieux à l'expression d'une parole qui va se libérant progressivement, mais ça va très vite. Il n'y a pas tellement de moments d'hésitation. Une fois que la parole se lâche, et ça va jusqu'au bout. Et on voit très bien comment ça peut basculer vers une espèce de totale libération.
Et avec une grâce parfois incroyable. Pour moi, il y a par exemple un moment qui me fait fondre. C'est le moment où Shmili explique son divorce et raconte comment sa femme, qu'il n'arrivait plus à toucher, s'est mise à la machine à coudre et il se met à chanter la chanson qu'elle chantait. Et c'est juste bouleversant, quoi. Il y a une façon de raconter vraiment, de raconter comme des conteurs, de raconter comme on leur a conté aussi à eux des histoires, hein. C'est un monde où les histoires sont très importantes, ouais. où les interprétations des histoires sont très importantes. Et la caméra, c'est quand même le lieu de...
Et c'est ce que j'allais vous demander, dans quelle mesure est-ce que votre caméra a permis l'expression de cette parole, ou la libération de cette parole ? Dans quelle mesure est-ce que vous avez influé sur votre matériau, en fait ?
Je crois, oui. Oui, parce que, d'une part, déjà, il y avait ce pacte avec Menachem, d'aller jusqu'au bout, sinon j'y allais pas. Et vraiment, j'y allais pas, quoi. Et à plusieurs reprises, il a fallu me rattraper, quoi. Et de raconter l'histoire, et je crois que mon émerveillement les a portés aussi, leur a donné une espèce de tapis un peu où ils s'envolaient avec.
Parce que il y a aucun jugement dans votre film, sur un sujet comme ça est exceptionnel.
Je ne suis pas là pour juger. Oui. Je suis pas là pour juger, ça m'intéresse pas du tout de juger. Je suis qui pour juger? Et puis ça m'intéresse pas. Moi, j'aime. Vous savez, très souvent, j'ai dit, moi, je suis la sœur des hommes, donc je peux m'approcher très près. Et j'y vais. Et toutes les histoires en littérature, on est très intéressé par des gens, y compris compliqués, qui ont quelquefois fait des choses horribles et qu'on découvre et on est intéressé par eux, par ce qui leur arrive. Pourquoi dans la vie on le serait pas? Il y a quelque chose de pourvu que la personne se dévoile.
C'est ça.
Dévoile sa complexité. Donc d'une certaine manière, le pacte c'était ça. S'il y a dévoilement, on y va, quoi.
C'était Signe des Temps, une émission de Marc Wetzmann, assistée de Nathalie Dempereur, avec à la technique Alex Dang et à la réalisation Véronique Villa. Dans un instant, une histoire particulière. Something